1 Corinthiens chapitre 12 verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Amen. On va un petit peu plus loin. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Recherchez l'amour, point. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques généralités au sujet des dons spirituels. On va tous les étudier, les uns après les autres, ce ne sera pas très long, mais on va prendre le temps de bien comprendre chacun des dons qui sont mentionnés par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Mais ce que je veux dans un premier temps, c'est vous apporter quelques généralités, quelques grands principes. C'est un message d'introduction, quelques grands principes qui régissent les dons spirituels et qui régissent l'usage des dons spirituels, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons absolument savoir, parce que chaque fois dans les églises, et il y en a eu, oh mon Dieu, chaque fois que dans les églises, il y a eu des dérives en matière de dons spirituels, voire même ensuite un rejet total des dons spirituels, c'est parce qu'il y a toujours eu ce problème basique de l'ignorance. Les premiers responsables, ce n'est pas vous, ce sont les pasteurs qui n'ont peut-être pas enseigné les dons spirituels à la lumière de la parole de Dieu. Paul a été très clair, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il n'a pas dit méfiez-vous, il n'a pas dit rejetez tout, il a dit je veux que vous sachiez de quoi il est question. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il faut absolument donc que nous ayons les uns et les autres une bonne compréhension et une bonne vision de ce que sont les dons spirituels. Donc pour aujourd'hui, ce sera un message d'introduction. On va parler de grands principes. J'ai simplement ici fait un petit tableau récapitulatif pour vous présenter les 9 dons que Paul a mentionnés en 1 Corinthiens 12. Je ne les ai pas mis dans l'ordre où Paul les a abordés. L'ordre n'a pas forcément d'importance. Ici, je les ai regroupés, pas vraiment moi, parce que beaucoup de pasteurs font ça dans leurs enseignements. Pour faciliter la compréhension, ces 9 dons peuvent être regroupés en vérité sous 3 grands axes. Il y a ce que l'on appelle les dons d'inspiration, et c'est pour ça que l'on regroupe la prophétie, le don des langues et l'interprétation des langues. Ça, ces 3 dons sont des dons d'inspiration. Il y a aussi ce que l'on appelle des dons de révélation. C'est exactement ce que Paul a dit, mais ici je le regroupe dans un ordre différent. Une parole de sagesse, une parole de connaissance, le discernement des esprits sont des dons de révélation. Et puis il y a aussi des dons de puissance, des dons dits de puissance. Le don de foi, qu'il ne faut absolument pas confondre avec la foi que nous exerçons les uns et les autres pour être sauvés, pour marcher quotidiennement avec Dieu, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, pour recevoir la guérison, pour quand nous nous attendons à Dieu pour des exaucements. Tout ça, on verra don par don, je vous expliquerai tout. Je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas mélanger la prophétie avec le ministère de prophète ou le prophète de l'Ancien Testament. Je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas mélanger le don de foi avec la foi pour ma marche chrétienne quotidienne. Il y a le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Et ces trois dons sont aussi des dons de puissance. Ces trois dons, on peut les regrouper sous cette appellation « don de puissance ». Pour aujourd'hui, vous avez juste ça en présentation générale sous les yeux. Je ne définis rien aujourd'hui volontairement, je fais un message d'introduction, on parle de grands principes et on reviendra là-dessus, mais là vous les avez quand même sous les yeux, mais rassurez-vous, on reviendra là-dessus et on verra point par point, don par don, ce que ce n'est pas et ce que c'est très important. Quelques grandes généralités au sujet des dons spirituels. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que avec Dieu, tout est grâce. Quand on dit tout, c'est tout, absolument tout. Tout vient de la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu peut pourvoir dans nos vies par l'intermédiaire de talents naturels et peut pourvoir aussi aux besoins de l'Église et de nos vies par des besoins surnaturels. Mais de toute façon, les talents, les capacités humaines, comme les dons surnaturels, spirituels, miraculeux du Saint-Esprit, sont à regrouper dans ce grand ensemble, parce que tout est dans ce grand ensemble, parce qu'il y a un seul grand ensemble qui s'appelle la grâce. Et si vous enlevez la grâce, tout s'effondre, il n'y a plus rien, évidemment. Mais à l'intérieur de ce grand ensemble qu'est la grâce de Dieu, il y a des talents, des capacités naturelles, des capacités humaines, et il y a des capacités, des communications surnaturelles. Bien que tout soit grâce, je vous ai inscrit ici pour vous aider à comprendre, les dons spirituels n'ont rien à voir avec des talents ou des capacités humaines. Ce ne sont pas des capacités humaines. Les dons spirituels, Paul parle bien dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, il parle bien de pneumatikos, il dit « en ce qui concerne les pneumatikos, pneuma, esprit de Dieu, en ce qui concerne les pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Donc, ce sont bien des communications de l'esprit. Ce ne sont pas des capacités humaines. Merci Seigneur, sa grâce pourvoit à des capacités humaines. Et il y a, dans ce monde, tous nous avons reçu quelque chose, nous pouvons être plus ou moins doués pour certaines choses. Certains ont reçu un talent pour la musique, certains ont reçu un talent pour le chant. Vous avez des personnes, hommes ou femmes, qui sont d'excellents cuisiniers. Moi, je sais faire à manger, mais j'ai pas un talent de cuisinier. Il y a des gens, quand ils font la cuisine, c'est... ils excellent. Moi, je fais cuire un steak avec trois pâtes et puis c'est bouclé, quoi. Je fais à manger, d'accord ? Mais j'ai pas ce talent-là. Il y a des gens, quand ils jouent de la musique ou quand ils chantent, ou quand ben ils font ce qu'ils peuvent et ils le font bien, merci Seigneur. Mais vous en avez d'autres ? Waouh ! Moi, des fois, j'ai regardé des gars qui chantaient ou j'ai regardé des gars qui jouaient de la guitare. Je dis, ah ouais, bon, c'est vrai qu'ils ont bossé. Mais enfin, quand même, il y a un talent, il y a quelque chose qui est... vraiment indéniable. Il y a des capacités humaines pour différentes formes d'art. Ce sont des capacités manuelles, par exemple, des capacités intellectuelles. Vous savez, tous ces gens dont on dit « Waouh, ils ont de l'or dans les mains. Waouh, alors lui, il a un cerveau à trois étages. » Etc., etc. Et je vous ai donné un exemple. L'exemple de Betsalel. Vous allez dans Exode 31, on va pas le lire, hein, vous notez la référence. Mais il est dit de Betsalel. J'aime beaucoup ce que le Seigneur dit à ce moment-là à Moïse, en parlant de Betsalel. Je l'ai rempli d'intelligence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler de l'or, pour graver des pierres, pour travailler le bois. C'est le Seigneur qui a donné ça, mais ça reste des talents naturels. ça reste des capacités humaines. Ce sont aussi des dons de grâce, mais naturels. Et ces dons naturels, nous les possédons. Celui qui sait jouer de la musique, celui qui sait chanter, celui qui est doué pour travailler le bois, celui qui est un super comptable et aucun problème mathématique ne lui fait peur, vous prenez n'importe quelle capacité humaine, il est propriétaire de cette capacité et il l'utilise comme il veut, quand il veut. Si j'ai pas envie de jouer de guitare pendant 20 ans, j'en joue pas. Si j'ai envie de jouer de la guitare 8 heures par jour, je joue de la guitare 8 heures par jour. Le don que le Seigneur m'a confié, c'est une capacité naturelle, j'en suis propriétaire. D'accord ? Pour les dons spirituels, pour les pneumaticos, c'est pas la même définition. Ce sont, oui, des dons de grâce, mais ce sont des dons surnaturels. Ce sont des manifestations, je vous ai mis ici, on pourrait dire aussi des communications. Ce sont des communications miraculeuses du Saint-Esprit. Ça a rien, mais alors absolument rien d'humain ou de naturel. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des manifestations miraculeuses, et j'ai bien mis ici, ponctuelles du Saint-Esprit. Parce que si à un moment, par la grâce de Dieu, je peux donner une parole de connaissance à quelqu'un, je ne suis pas propriétaire du don parole de connaissance. Si à un moment, par la grâce de Dieu, j'exerce une prophétie dans l'Église, je ne suis pas propriétaire de la prophétie et je ne deviens pas un prophète. Ce qui répond tout de suite à la première question, est-ce que je dois l'exercer tous les dimanches ? Non, certainement pas, parce que tu n'en es pas propriétaire. Et si je le fais systématiquement tous les dimanches, ça veut dire que je me suis accaparé un truc qui appartient à l'Esprit de Dieu. Ce sont des manifestations ponctuelles, nous ne les possédons pas. C'est le Saint-Esprit qui en est le propriétaire. Un seul et même Esprit opère. C'est lui qui opère au travers du croyant né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit, on va le voir. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Le Saint-Esprit opère toutes ces choses comme il veut. Pas comme je veux. Ce qui nécessite, on le verra aussi plus tard, on en reparlera, on a beaucoup de choses à dire sur les dons et sur chaque don, ce qui nécessite que la personne soit vraiment dans une attitude d'humilité, de soumission, qu'elle soit disposée, disponible, qu'elle soit sensible à la voix de l'Esprit pour savoir ce que l'Esprit veut lui communiquer au moment où il veut lui communiquer et qu'ensuite la personne, dans cette même humilité, dans cette même soumission, laisse la chose entre les mains de Dieu de sorte de pas se l'accaparer, de se créer un titre, de se forger une stature spirituelle et puis de faire ensuite ce que je veux derrière dans une assemblée ou une autre. J'insiste bien, les pneumaticos sont surnaturels, ils viennent d'une autre dimension et ils ne sont accessibles que par le baptême dans le Saint-Esprit qui est la porte vers les dons de puissance. Le Saint-Esprit, je le dis en d'autres termes, il est le seul et unique dispensateur des dons et il les distribue. Il les distribue, je vous l'ai souligné là-bas, à chacun, comme il veut. Ça va, c'est clair ? On va aller tout doucement, on va aller tranquillement. Hein. Mais ça, c'est super important. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite. Les dons spirituels ne sont pas des récompenses ou des médailles que le Seigneur accroche sur la poitrine des meilleurs de ses enfants. Puisque tout est grâce. Les dons spirituels sont accessibles, pas à n'importe qui, comme dit Paul, à tous, à chacun, en parlant de chrétiens qui sont effectivement nés de nouveau. Il faut être né à la vie de Dieu et il faut aussi être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut avoir fait cette expérience-là, pour recevoir ce que l'Esprit veut communiquer en termes de parole. Il y a une dimension particulière. Là aussi, je vais redonner une image, je vais peut-être essayer d'enfoncer un peu le clou sur certaines choses. Lorsque vous avez été convaincu de péché par le Seigneur, vous lui avez dit oui avec votre cœur, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous lui avez demandé pardon. Et puis, vous avez mis votre foi en action dans l'œuvre de Jésus à la croix, dans sa personne suffisante. À ce moment-là, parce que votre démarche de cœur était vraie, était sincère, vous êtes intérieurement, vous êtes né à la vie de Dieu. Vous êtes né à la vie de Dieu. Votre esprit, qui était mort, il était déconnecté aux choses de Dieu, a été régénéré, dit Pierre, littéralement, votre esprit mort a été ressuscité aux choses de Dieu, et par votre esprit qui est ressuscité à la vie de Dieu, vous êtes en communion avec l'esprit de Dieu, vous êtes entré dans le royaume de Dieu. C'est comme si, vous prenez l'image de ce bâtiment, vous rentrez, quand vous rentrez dans la nouvelle naissance, par la nouvelle naissance, vous rentrez dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, à ce moment-là, vous êtes, je vous donne l'image, vous êtes dans le hall d'accueil. Vous êtes dans le royaume. Vous êtes sauvé, vous appartenez au Seigneur, vous êtes rentré dans le royaume de Dieu. Mais si vous voulez accéder aux dons spirituels, pneumatikos, les manifestations, les communications surnaturelles et miraculeuses du Saint-Esprit, il faut entrer dans la grande salle qui est bien plus grande que le hall d'accueil, qui s'appelle la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la porte qui m'introduit dans la vie de l'Esprit. Et là, eh bien, même si j'ai expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit et que j'ai passé la porte, Paul ne veut pas que les chrétiens restent le dos collé à la porte qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, mais qu'ils aillent plus loin et qu'il y ait toutes sortes de choses qu'ils puissent vivre et expérimenter ensemble. Ça va, je continue, l'image est claire. Né de nouveau et ensuite passer la porte du baptême dans le Saint-Esprit pour accéder à cette autre dimension. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, d'un côté, tous, alors j'ai bien reprécisé, hein, tous nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit. Vous m'excusez pour les abréviations, j'avais pas assez de place. Tous, nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, peuvent exercer les dons spirituels. Paul dit bien, il le dit plusieurs fois, ça ressort, à chacun, dans le contexte des dons, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Les distribuant en particulier, à chacun, j'aurais dû souligner là aussi, à chacun, et je vous mets les références qu'on a lues à chaque fois. C'est la même chose à la Pentecôte. Les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Chacun. Les dons spirituels, ce que je dois comprendre, c'est qu'ils ne sont pas réservés à une élite, et je mets des grosses guillemets sur élite, parce que on verra aussi plus tard que les dons spirituels ne sont pas un gage, ne sont pas une preuve de perfection spirituelle. Absolument pas. Mais je ferme la parenthèse, ça c'est pour plus tard. Ce sera un autre point dimanche prochain. Ils ne sont pas réservés à une élite. Ce ne sont pas des récompenses. Le Seigneur ne va pas me communiquer quelque chose à moi parce que je suis mieux que l'autre. Le Seigneur n'a pas communiqué quelque chose à la sœur parce qu'elle est mieux que le frère ou inversement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les dons, c'est comme le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme la guérison divine, c'est comme tout dans la vie avec Dieu. Puisque tout est grâce, rien n'est méritoire. Il n'y a pas d'histoire de mérite là-dedans. Ok ? Et nous, humains, les mérites, on aime ça quand même. Hein. Il n'y a pas de notion de mérite à chacun. Dans 1 Corinthiens 12, vous avez lu comme moi, à l'un est donné, à un autre 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 est donné, etc., etc. À chacun est donné, il distribue à chacun. Ça veut dire que les dons spirituels dans l'Église, c'est le problème et la responsabilité de... C'est vous qui l'avez dit. Les dons spirituels, c'est la responsabilité de chacun. Des fois, on dit, pourquoi c'est toujours les mêmes qui? Ben, parce que c'est toujours les mêmes qui pas. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui apportent une prophétie? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui? Parce que une majorité, c'est pas méchant ce que je dis, mais une majorité ne savait pas. ou a oublié, ou n'a pas pris à cœur, que c'était aussi la responsabilité individuelle et personnelle de chaque membre de l'Église. Si ce sont toujours les mêmes, c'est peut-être parce qu'une majorité n'a pas compris, ce qu'on peut comprendre. C'est peut-être parce qu'une majorité n'est pas sensible. Pardon, je ne veux pas être méchant, peut-être parce qu'une majorité ne s'y intéresse pas. Et peut-être une majorité ne s'est jamais tenue devant Dieu en disant « Seigneur, je veux être à ton écoute. Dis-moi ce que je pourrais transmettre pour bénir un frère, une sœur. » Pas toujours les mêmes. Paul a jamais dit que ce serait toujours les mêmes. Et si c'est toujours les mêmes, c'est pas méchant, mais j'insiste, c'est parce que les autres, pourquoi voulez-vous que je m'y intéresse puisque l'autre va le faire? C'est comme ça que l'Église s'appauvrit. Allez, je vous demande pardon par avance. C'est fait, merci. Je suis déjà pardonné. Oui, vous me connaissez. Je veux mettre de pression sur personne et c'est absolument pas méchant parce que parfois on peut avoir des raisons plus ou moins légitimes de ne pas élever sa voix dans l'Église, etc. Parfois j'entends, on me dit, ah ouais mais c'est un peu toujours les mêmes qui prient. Mais si ce sont les mêmes qui prient, c'est pas méchant, c'est parce que ce sont les mêmes qui ne prient pas. Mais c'est logique. Parce que si tout le monde prend sa place, waouh, ça va fuser. Puis des fois on dit, ah là là, ouais, ah ben dans cette église on connaît l'ordre des prières. Hein. En un ça va être la sœur une telle, en deux ça va être le frère un tel. Oui mais pourquoi? Ben parce que ce sont toujours les mêmes qui se reposent sur ceux qui prient. Puis après on leur reproche. Un jour on m'a demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même demander aux gens, lorsque c'est toujours les mêmes qui prient, de moins s'étaler, s'il vous plaît, de laisser plus de place aux autres. Je leur ai dit, ben, je m'excuse, mais non, non. Vous me voyez en train de demander à des gens qui prient, s'il vous plaît, vous pourriez prier moins, voire ne pas prier. Non, j'encourage ceux qui n'ont pas encore pris ce temps, dans la louange, dans l'intercession, je les encourage, je change pas de sujet, hein, c'est le même principe, je les encourage. Élevez votre voix, prenez votre place, ne calculez pas, soyez simple, soyez spontané, on est en famille, Dieu est notre Père, mais prenez votre place. Et si vous ne le faites pas, ben d'autres prendront la place. Je ferme la parenthèse. Mais nous sommes tous responsables. Et en fait, les dons spirituels, c'est comme pour l'Église. L'Église, elle sera ce que je suis. L'Église, elle sera ce que j'en fais. Le temps de louange, il est ce que moi j'en fais. Le temps de prière, le mardi soir, il est ce que moi j'en fais. Et si je veux que le temps de louange change, bah ouvre ta bouche et le temps de louange, il va changer. Et le temps de prière, bah ouvre ta bouche et le temps de prière, il va changer. Ok? Et avec les dons spirituels, c'est pareil. Aspire aux dons, demande au Seigneur. L'usage, la richesse des dons spirituels va changer dans l'Église. Alors, oui, c'est la responsabilité de chacun, mais en même temps, puisque Dieu ne nous force pas et ne fait jamais les choses contre notre volonté, j'insiste, hein, c'est accessible à chacun. Mais le Seigneur va pas me forcer. Hein. D'un autre côté, il faut s'y intéresser sérieusement. Et c'est là qui est intéressant ce qu'on a lu ensemble dans 1 Corinthiens 14. Aspirer, le verbe aspirer signifie, je vous ai mis plusieurs termes qui décrivent le mot grec employé, le mot aspirer signifie brûler avec ardeur, désirer sincèrement, ça signifie s'occuper sérieusement de. Paul est en train de dire aux Corinthiens, occupez-vous sérieusement des dons spirituels, des pneumaticos, brûlez avec ardeur. Poursuivez les dons, désirez sincèrement les dons spirituels, parce qu'évidemment l'Esprit ne me force pas, il ne fait rien sans ma volonté, il a la capacité, mais c'est moi qui ai la volonté. Je continue sur encore un ou deux axes rapidement pour aujourd'hui. Il faut comprendre que les dons spirituels ne sont pas une option. Je sais que dans beaucoup de milieux, même des milieux dits de Pentecôte, les dons spirituels sont, excusez-moi, devenus la cinquième roue du carrosse. Parfois la sixième, parce que malheureusement, c'est des fois le Saint-Esprit qui est devenu la cinquième roue du carrosse. Donc, c'est passé vraiment, soit parce qu'on ne s'en est pas occupé, soit parce qu'on a tout rejeté, parce qu'on a eu peur de certaines dérives, de certains abus, etc., etc. Les dons ne sont pas une option, ils sont vitaux, ils sont importants, ce sont des outils du Saint-Esprit au travers des croyants, au service de la communauté, au service de l'Église. Ils ne sont pas une option, puisque je reprends le même texte, hein, c'est facile. Paul dit « Poursuivez les dons, occupez-vous sérieusement des dons, brûlez avec ardeur, désirez-les sincèrement. » Il n'aurait pas dit ça si c'était une option. Il dit aussi « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Et c'est malheureusement l'ignorance qui a souvent, pour ne pas dire toujours été, à l'origine de beaucoup de dérives et par conséquent de beaucoup de rejets. Il y avait beaucoup de déséquilibre. Et ce qui est intéressant, je vous le dis toujours, c'est d'étudier les textes dans leur contexte. Le problème de Corinthe, c'est que c'est une église qui est déséquilibrée. On va le voir ensuite. Pourquoi déséquilibrée? Parce qu'elle n'a pas compris l'amour agapé. C'est ça la clé de voûte des dons spirituels. Cette église, elle a beaucoup de déséquilibres. Mais malgré tous les déséquilibres qu'il y a dans cette église, l'apôtre Paul n'a pas fait ce que font certains pasteurs. Il n'a pas fait taire tout le monde. Il a ramené de l'équilibre. C'est trop facile de faire taire les gens. C'est trop facile d'interdire. C'est trop facile d'exiger le silence. C'est trop facile de mettre les gens sous des chapes, sous des condamnations. C'est trop facile de mettre la clé sous la porte. C'est beaucoup plus difficile d'amener de l'équilibre. C'est plus facile de se débarrasser des gens pour se débarrasser des problèmes plutôt que de gérer les problèmes lorsqu'il y a eu un problème d'immaturité pour l'exercice d'un don, etc., etc. Alors certains pasteurs, eux, ils ont préféré « Toi, t'es gentil, mais comme ta prophétie, elle n'était pas forcément comme moi, j'estime que t'es gentil, hein. Tu te tais. Puis toi, s'il te plaît, merci. Voilà. Puis s'il vous plaît, la louange, hein. Hey, qu'il n'y en ait pas deux qui prient en même temps. Hein. Parce que c'est écrit, hein, Dieu est un Dieu d'ordre et pas un Dieu de désordre. » Puis après, on rentre dans des églises qui ont marqué « Église de Pentecôte » sur leur fronton. Vous rentrez là-dedans, ça sent la mort en trois volumes. Et puis, on dirait un cimetière. Alors, vous me connaissez, je suis pas ce genre de pasteur. Je veux, c'est ce que Paul dit, je veux que vous sachiez, je veux que vous connaissiez, je veux que vous soyez mature, je veux que vous puissiez discerner, que vous puissiez, on le verra aussi, que vous puissiez examiner les dons, les comprendre, les appréhender et les examiner au sens de pouvoir statuer et de pouvoir recevoir ce qui est vraiment de Dieu. Et puis pour ce qui n'est pas de Dieu, ben vous inquiétez pas, on le gérera. Parce que le but, c'est pas de tout rejeter, le but, c'est évidemment d'arriver à de la maturité. J'insiste sur ce point parce que on a tous, dans différentes assemblées, on a tous eu des parcours, on a tous vu, on a tous entendu des prophéties abusives. Je sais qu'il y en a, parce que c'est la chair qui a pris le dessus. Des fausses prophéties, quand je dis prophéties, c'était des grosses guillemets. Hein. On a tous entendu des prophéties, avec des grosses guillemets, hein, ça n'en était pas, abusives. On a tous entendu des fausses prophéties manipulatrices, des prophéties avec des grosses guillemets dominatrices. S'il y a du faux, c'est pas pour autant que le vrai n'existe pas. Ok ? On a tous déjà été déçus d'un médecin. C'est pas pour autant que vous avez dit « Ah ben moi, j'irai plus jamais voir un médecin de ma vie. » Non, si vous avez été déçu d'un médecin, vous avez su arrêter quand il fallait arrêter, puis vous en avez cherché un bon. Vous avez laissé ce qui était faux et vous avez cherché ce qui était vrai. Vous n'avez pas rejeté, vous avez cherché ce qui était vrai. Je vous fais la même avec un garagiste. Vous avez déjà été déçu d'un garagiste. Ok. C'est pas pour autant que vous n'entretenez pas votre voiture. Vous en cherchez un bon. Vous vous renseignez et vous en cherchez un bon. Je vous fais la même chose avec un assureur. Vous avez compris, mais comme ça va plus vous marquer. Vous avez déjà probablement été déçu d'une assurance. Un jour, j'ai été fortement déçu d'une assurance qui m'avait vendu monts et merveilles. Il y avait toutes les petites lignes en bas que j'avais pas lues parce qu'ils avaient fait en sorte que je les lise pas. Et j'ai été fort dépourvu quand l'hiver fut venu. Je lui ai dit, merci beaucoup, on va en rester là, mais j'ai pas roulé sans assurance. J'ai cherché une bonne assurance. C'est la même chose dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose dans la vie de l'Esprit, c'est la même chose dans le domaine des dons spirituels, et malheureusement, je vous ai fait rire, mais pardon, parfois on est stupide, il y a eu des choses qui nous ont choquées, qui ont été abusives, dominatrices, manipulatrices, légalistes, des choses qui ont été complètement déviées, et quand on a vu ça, on a dit, hop, 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 terminé, moi, faut plus en parler. Non, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est le problème chez vous, il y a un maximum de déséquilibre. Oui, vous avez tous les dons si vous relisez l'Épître aux Corinthiens. Oui, vous avez tous les dons. Malheureusement, vous êtes dans une sérieuse ignorance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bazar chez vous, que c'est un marché couvert, que c'est un brouhaha. Et puis que, ben oui, quand on rentre chez vous, on se demande si vous n'êtes pas un petit peu dingo. Parce que il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Et l'équilibre qui vous manque, c'est justement l'amour. Vous n'avez pas compris l'amour agapé. Vous n'avez pas compris la clé de voûte. Alors forcément que c'est l'anarchie dans les dons. Et la solution, j'insiste frères et sœurs, la solution, c'est pas de mettre les dons spirituels à la porte. La solution, c'est de reconstruire avec la clé de voûte qui s'appelle agapé, l'amour de Dieu. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, je vous ai mis un truc très bête, hein, c'est une vérité de la palisse, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul a mis ici 1 Corinthiens 13, juste entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Le chapitre 12 parle des pneumaticos, dons spirituels. Le chapitre 14 parle des pneumaticos, dons spirituels. Et 1 Corinthiens 13 se trouve juste au milieu. Pourquoi ? Il avait envie de faire une pause ? Non, parce qu'il leur dit à la fin du chapitre 12, « Je vais vous montrer une voie par excellence. » C'est comme s'il leur disait « Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire un usage sain, équilibré, et un usage efficace des dons spirituels, et c'est uniquement par cette voie royale, cette voie par excellence qui s'appelle agapé, l'amour. Il fait son chapitre 13 que vous connaissez, que vous pourrez relire sur l'amour de Dieu agapé, pas philéo, pas eros, pas des amours humains, l'amour agapé, et il reprend au chapitre 14 toujours sa logique sur les dons en disant non pas aspirer au don. Il a dit rechercher l'amour, aspirer au don. Parce que la clé de voûte, ce qui va garantir l'équilibre de l'édifice, ce qui va garantir un usage équilibré et efficace des dons, c'est justement cet amour de 1 Corinthiens 13, cet amour agapé. Et les dons, nous devons les chercher dans le contexte de l'amour de Dieu, inspiré, reçu par l'amour de Dieu, motivé par l'amour de Dieu, exercé par l'amour de Dieu. Les dons spirituels sont importants dans la vie de l'Église. Ils sont un signe, ils sont une preuve de la présence et de l'activité de l'esprit d'amour, parce que tout est fait par grâce et tout est fait dans l'amour, dans l'assemblée. Amen. Ça va ? Allez, un dernier petit point pour aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que tout ce que je vous dis là s'applique à l'ensemble des dons spirituels, ce sont les principes généraux. Le but des dons spirituels, on n'oublie jamais que tout est grâce. Puisqu'ils sont des dons de grâce, si j'ai compris ça, pas avec ma tête, mais au plus profond de mon cœur, j'ai compris que le don, la communication miraculeuse, surnaturelle, ponctuelle du Saint-Esprit est une pure grâce que Dieu fait à celui qu'il va utiliser et une pure grâce pour celui qui doit être béni par ce qui va être communiqué. Si j'ai compris ça, que ce n'est pas méritoire, donc je comprends aussi que les dons spirituels ne sont pas pour ma satisfaction personnel, ne sont pas pour la satisfaction de celui qui les exerce, ni pour se donner de l'importance, ni du pouvoir dans l'Église. C'est pas pour se mettre en valeur. J'ai vu certaines églises où des gens exerçaient leur petite autorité, alors je mets des grosses guillemets parce que ça n'a rien à voir avec l'autorité de Dieu, c'était plus un esprit de pouvoir, de domination, ils se faisaient valoir et ils existaient seulement au travers de ce qu'ils apportaient. C'était pour eux une façon de conduire et d'influencer l'Église dans différents modes de pensée. Et chaque dimanche, on avait le droit à « Oui, le Seigneur, gna 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 » avec un air mielleux. Ça, c'est mielleux, c'est pas de l'amour. D'accord ? Quand je parle avec amour, je change pas de voix.
Je deviens pas un bisounours parce que je suis rempli de l'amour de Dieu, hein, quand même. Hein.
D'accord ? Je change pas de voix. Et puis avec un air mielleux,
oui, alors le Seigneur, gna gna gna, tu sais le Seigneur.
Et puis chaque dimanche, et chaque dimanche, et chaque dimanche, on avait le droit à une pensée qui, bibliquement parlant, était quand même tirée par les cheveux, parce qu'il y avait un groupe de personnes qui, ayant bien parlé la semaine, et qui ensuite essayaient d'orienter l'Église, malgré ce que le pasteur disait, vers ce qui, eux, les arrangeait. Fausse prophétie, très mielleuse. J'ai vu des gens aussi, ça existe. Quand il parlait, alors là, attention, et ça commençait un petit peu, je paraphrase, hein. Attention, attention, peuple de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, va te parler. Alors tous les gens qui étaient dans l'ignorance, et puis à qui on avait remis sur les oreilles dimanche après dimanche, c'est parce qu'il y a au milieu de vous un grand nombre de malades et que beaucoup sont morts, et qu'on vous dit ça tous les dimanches, quand le frère ensuite il disait « Attention, attention, ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël, ton Dieu, écoute, ô peuple de Dieu !» Les gens, ils étaient là, ils disaient, oh, c'est qui le prochain qui va être malade? C'est toi? C'est moi? Qui c'est qui va mourir cette semaine? Ça fait rire comme ça. Mais vous savez que ça existe. Et malheureusement, c'est pour ça que ça m'a tout de suite interpellé quand j'ai relu ça. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y avait des utilisateurs qui étaient dans l'ignorance et des récepteurs qui étaient tout autant dans l'ignorance. Et c'est comme ça que ça a laissé la place à toutes sortes de dérives et qu'on a entendu des fausses prophéties, je mets des grosses guillemets sur prophétie, hein, je le répète bien, des prophéties qui étaient abusives, au point que on commençait à dominer, à influencer, à faire peur, et puis on s'apercevait que 3-4 personnes qui se donnaient le relais de dimanche en dimanche avec des fausses prophéties arrivaient à maintenir une église entière sous leur coupe. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'ignorance, et il n'y avait pas d'enseignement. Ce n'est pas pour se donner de l'importance, ce n'est pas pour se donner du pouvoir. Les dons spirituels ne sont pas des outils pour diriger l'Église. Parce que il y a des pasteurs aussi qui jouent là-dessus pour essayer de diriger leur Église. Eh ouais. Ils ne sont pas pour la satisfaction personnelle de celui qui exerce. Ils ne sont pas pour se donner de l'importance. Ils sont pas pour se donner du pouvoir. Ils ne sont pas là comme des outils pour diriger l'Église. Ils sont communiqués, dit Paul, vous l'avez lu comme moi, pour l'utilité commune. Le but général des dons spirituels, c'est l'utilité commune, c'est l'édification. 12, verset 7, l'utilité commune. On n'a pas lu au chapitre 14, le verset 12, je vous l'ai mis là. « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. » C'est ça le but. Et si je dois dire quelque chose de la part du Seigneur, eh ben c'est normal qu'à l'intérieur, je tremble. Hein. Je suis pas fier. Hein. Parce que j'ai conscience de la grâce que Dieu me fait. Puis je suis conscient de l'enjeu. Il y a un enjeu. Je vais parler à des brebis du Seigneur. Selon ce que je vais leur dire, ça peut les édifier ou les casser pour des années. Donc, il y a une grosse responsabilité de celui qui va exercer un don, quel qu'il soit, pas seulement la prophétie. On pourrait parler de paroles de connaissance, de fausses paroles de sagesse, etc. Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. Le but, c'est pas de dominer, diriger, se satisfaire, faire peur, manipuler, se faire valoir, s'assurer une place. Le but, c'est l'édification, c'est-à-dire la construction de l'Église. La construction de ceux qui vont recevoir ces dons. Ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Abondamment. Ce sont donc des outils pour construire le corps de Christ. Ils sont pour les chrétiens. l'édification, la construction de l'Église, mais il y a aussi un but, un objectif pour les inconvertis. La manifestation visible, les dons spirituels sont aussi la manifestation visible du Dieu invisible, de sa réalité, de son omniscience. Il sait tout, toute puissance, il peut tout aux yeux des incroyants. Et il y a un exemple merveilleux ici, mais ça vous le relirez, l'exemple d'une prophétie, chapitre 14, verset 25, lorsque quelqu'un qui n'est pas croyant a entendu quelque chose et dans l'assemblée des fidèles, et il est obligé de confesser, il est obligé de dire « Dieu est réellement au milieu de vous ». Il voudra de Jésus, il voudra pas de Jésus, ça reste son problème, mais il est obligé de dire « Dieu est réellement au milieu de vous ». Et donc, il y a une utilité pour le corps de Christ, pour son édification, sa construction, et une utilité aussi pour les non-chrétiens. Un jour, une sœur dans l'église, elle est en train de témoigner à une amie, une collègue, une inconvertie. Et puis, cette personne est en train de se plaindre. Oui, j'arrive pas à avoir d'enfant, je voudrais un enfant maintenant, s'il y avait un bon Dieu, j'ai pas d'enfant, pourquoi ça se fait, comment ça se fait que le Seigneur veut pas, peut pas, machin, ton Dieu, etc. S'il y avait un bon Dieu, enfin, vous connaissez un petit peu tout ce qu'on peut vous servir. Comme quoi, c'est toujours plus simple de témoigner quand on est inspiré par l'Esprit et qu'on a des dons spirituels. Dans le témoignage, la parole de connaissance est extrêmement précieuse. Et puis la sœur qui était authentiquement pleine d'amour et remplie du Saint-Esprit, sans jugement, pendant que sa collègue lui parle, elle reçoit un truc dans son cœur, mais clair, et elle le voit, c'est net. Et alors que la copine est en train de lui dire « Oui, j'arrive pas à avoir d'enfant, c'est inadmissible, etc. » La sœur, elle lui dit « Mais pourquoi tu dis que tu arrives pas à avoir d'enfant ? Tu as déjà été enceinte, mais tu as avorté. Et là, dans le témoignage, pouf, l'avantage revient tout de suite à la chrétienne. Parce que c'était vrai. Ça s'appelle une parole de connaissance. Parce qu'elle était totalement incapable de savoir, si ce n'est par communication miraculeuse, surnaturelle et ponctuelle du Saint-Esprit, que cette personne était en train de résister et de mentir à Dieu et de mentir aux hommes, alors qu'elle avait déjà eu un enfant, qu'elle avait avorté et que ça avait eu des dérèglements dans son corps. Donc le problème n'était pas Dieu, le problème était son absence de repentance. CQFD. Alors là, par contre, l'inconvertie, elle est obligée de dire « Ah, toi, t'as vraiment quelque chose en toi que tu appelles Saint-Esprit, je le connais pas, mais il y a vraiment... Dieu est réellement en toi. Dieu est réellement au milieu de vous. » Après que la personne, elle veuille de Jésus ou pas, ça va rester son problème. Mais vous voyez la dimension des dons spirituels. Alors, je vous donnerai toutes sortes d'exemples bibliques et aussi pratiques dans les différents dons. Retenez ça pour aujourd'hui. Voilà, c'est quelques points très simples, quelques généralités pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec des talents ou des capacités humaines. Ce sont des communications ponctuelles, miraculeuses et surnaturelles du Saint-Esprit. Ils sont accessibles à tout chrétien qui est né de nouveau et qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais en même temps, il va quand même falloir s'y intéresser sérieusement. C'est ce que Paul enseigne. Les dons spirituels ne sont pas une option, ils sont vitaux pour la vie de l'Église. Ils sont dépendants de cette clé de voûte qu'est l'amour, 1 Corinthiens 13, je le redévelopperai un petit peu plus tard. Et puis, le but, leur objectif est l'édification des chrétiens, mais aussi, aux yeux des inconvertis, d'être la manifestation visible du Dieu invisible, de sa réalité, de son omniscience, de sa toute-puissance aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas encore. Amen.